Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2.
Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation.
Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique.
Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire.
Parole de l'ombre 2.
En librairie pour 34,80€ seulement.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y aura 200 ans samedi, le 22 octobre 1811, naissait Franz Liszt, enfant prodige, improvisateur, puis virtuose au piano, compositeur, chef d'orchestre, professeur, fondateur de festivals, mais aussi écrivain et philanthrope, l'un des hommes les plus adulés du 19e siècle. Et vous l'avez compris, Franck Ferrand ne pouvait pas passer à côté d'un pareil événement. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. On n'imagine plus aujourd'hui ce qu'aura pu être de son vivant la gloire de Liszt, de sa naissance à Dorbojan en Hongrie, jusqu'à sa mort à Bayreuth en 1886, la longue trajectoire de ce phénomène musical qu'a été Liszt aura jalonné d'une incroyable quantité de compositions toute l'histoire de la musique et du romantisme au 19e. Comme le rappelle le commissaire général en France de l'année Liszt, Jean-Yves Clément, ce génie est aussi, je le cite, l'incarnation d'une virtuosité grisante, un mystique romantique, un compositeur poète qui laisse l'œuvre la plus indéfinissable qui soit.
Pour en parler, vous avez convié à vous rejoindre à ce micro le monsieur musique d'Europe 1, Thierry Geffrotin.
Eh oui, Thierry Geffrotin qui dirige le service culture de cette maison et qui me fait l'amitié d'être avec nous ici dans ce studio. Alors nous allons essayer en sa compagnie de balayer la vaste étendue de cette existence hors du commun. Mais auparavant, romantisme oblige Julia, j'aimerais vous faire revivre ce qui fut le premier amour de Franz. Et pour ça, je vous propose de nous retrouver dans le Paris plein d'émotions du temps de Charles X.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Entre Paris et Liszt, c'est une histoire d'amour qui a commencé très tôt. Le petit Liszt, comme on l'appelait alors, n'a pas 14 ans en 1824 lorsqu'il est acclamé à l'opéra italien et dans diverses églises où il donne des concerts spirituels. Et l'Académie nationale de musique lui commande un opéra. Voilà ce qui s'appelle une carrière précoce. Avec son oreille musicale d'une justesse miraculeuse, avec ses petits doigts d'une virtuosité sans pareille, cet enfant s'est imposé très tôt comme le parangon de l'enfant prodige. C'est un peu comme Mozart. Du reste, de la même façon, c'est son père, Adam, modeste violoniste du prince Esterhazy, qui a organisé pour son fils des tournées à travers l'Europe. Et les capitales de l'époque se sont arrachées le jeune phénomène. Alors, Liszt a grandi, il est resté ce prodige, mais qui se double bientôt d'un virtuose et surtout d'un improvisateur sans égal. Coup dur, en 1827, Franz a la douleur de perdre son père, qui avait seulement 50 ans et qui se trouvait aussi être son impresario, si vous voulez. Cette disparition marque pour le jeune Liszt le début d'une vie solitaire où la religion occupe une place prépondérante. Franz songe même un moment à entrer dans les ordres. Étrange idée tout de même pour ce tout jeune homme déjà très attiré par les femmes. Ce penchant démesuré, son père l'avait bien ressenti du reste. Et sur son lit de mort, Adam a mis son fils en garde. « Je crains pour toi les femmes, lui a-t-il dit. Elles troubleront ta vie et te domineront. » En attendant, Franz Liszt s'est bel et bien installé à Paris, définitivement. Alors pour gagner sa vie, le jeune Hongrois donne des leçons de piano aux enfants de nombreuses familles de la bonne société. Et c'est ainsi qu'il devient le professeur, entre autres, d'une certaine Caroline de Saint-Cricq. Elle deviendra son premier amour. Caroline de Saint-Cricq, c'est une douce jeune fille. Elle est brune, pleine de charme, un charme qui est encore un peu enfantin, évidemment. Son père n'est pas n'importe qui. Il est le ministre du commerce et des manufactures dans le cabinet de Monsieur de Martignac. On est là moins de 2 ans avant la fin du règne de Charles X. Caroline est fascinée par la beauté, par la fougue, par le romantisme, peut-être aussi par le talent de son tout jeune professeur. Il joue pour elle et Caroline l'écoute éperdument, sans pouvoir retenir ses larmes.
sur Europe 1 de rêves d'amour, Franck.
Alors chaque jour, vous imaginez que les cours durent un petit peu plus longtemps. Ils débordent sur les leçons d'autres élèves qui attendent. Mais attendre Monsieur Liszt, c'est déjà un bonheur. Les deux jeunes gens n'ont pas en commun que l'amour du piano. La poésie aussi les obsède. Caroline lit d'une voix très douce ses sonnets préférés. Franz écoute et sourit. À ce régime, les leçons deviennent vite un véritable enchantement. La mère de Caroline fronce vaguement les sourcils, mais d'indulgence et d'attendrissement et non pas d'inquiétude. Hélas, cette comtesse de Saint-Crieg est de santé très déclinante, elle sent venir sa fin et, comme une dernière volonté, elle supplie son mari de ne pas entraver l'amour de ces jeunes gens magnifiques. Peine perdue, peu de temps après, Madame de Saint-Crieg meurt et son mari, le comte de Saint-Crieg, en bon ministre, cherche un parti efficace pour sa fille. Ah, il ne tergiverse pas, il congédie Franz Liszt.
Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et avec Franck, nous célébrons aujourd'hui sur Europe 1 le bicentenaire d'un grand musicien, peut-être le plus grand pianiste de tous les temps, Franz Liszt.
Peut-être le plus grand amoureux de tous les temps. En tout cas, un soir bien triste de l'automne 1828, le maître de piano est formellement informé que les leçons de Mademoiselle de Saint-Crieg sont terminées. Décision paternelle irrévocable. Liszt reçoit le coup sans broncher. Il n'aura même pas la possibilité de dire un dernier adieu à Caroline. Le jeune homme est effondré. Alors, comme au moment de la mort de son père, Franz se tourne vers Dieu. De son côté, Caroline tombe malade, gravement malade. Elle émet le souhait de prendre le voile. Son père est inflexible, il ne veut rien entendre. Elle doit se résigner à épouser le comte d'Artignaux. C'est un magistrat. Son père aussi était magistrat, était premier président de la cour royale de Pau. Autant dire qu'elle va partir, Caroline. C'est un mariage arrangé, c'est évident. Et Caroline de Saint-Crieg épouse donc le comte d'Artignaux. Elle s'en va vivre loin, très loin de Paris, là-bas au pied des Pyrénées. Ses derniers espoirs envolés, Franz est anéanti. Il abandonne toutes ses leçons. Il s'enferme dans son appartement. Il tombe malade à son tour. Il va rester des jours entiers les volets clos au point que le bruit de sa mort finit par se répandre dans le quartier. Et puis, un soir de juillet 1830, alors que retentissent les premiers coups de feu de cette révolution parisienne que l'histoire va retenir sous le nom des Trois Glorieuses, notre pianiste retrouve d'un coup la fureur de son génie. Le canon l'a guéri, c'est la formule de la mère de Liszt. Alors le temps a passé, un soir de l'automne 1834, un joyeux groupe d'artistes et d'écrivains se réunit chez Frédéric Chopin. On est à la Chaussée d'Antin à Paris. Il y a là Georges Sand, Eugène Delacroix, Meyerbeer, Heinrich Heine. Je parlais l'autre jour des petits cénacles autour de la fontaine sous Louis XIV, mais là c'est pas mal non plus dans le genre romantique. Tandis que Frédéric, le Polonais, interprète une sonate au piano, Liszt, le Hongrois, ne regarde qu'une seule femme, la comtesse d'Agoult, que Berlioz lui avait présentée quelques jours auparavant. Ah, c'est une belle blonde, elle tient un salon littéraire, elle ne se plaît qu'en compagnie des écrivains, des artistes. C'est un exutoire pour elle qui s'est mariée depuis 7 ans au premier écuyer de Madame Royale et qui pourrait être son père, ce bonhomme-là, qui est un bonhomme assez grave et ennuyeux. Voilà la première grande liaison de Liszt avec une femme mariée du Faubourg Saint-Germain. Elle l'accompagnera pendant 10 ans, pendant presque toute sa première période brillante. Dès leur rencontre, Franz et Marie vivent une liaison qui est cachée, évidemment. L'aînée des deux filles de Marie d'Agoult meurt en décembre 1834. Marie veut y voir le châtiment de ses amours adultérines. On est plein de remords, et volontiers à cette époque. Et d'autant plus qu'elle est déjà enceinte de Liszt, il faut vous dire. Le couple est objet de scandale, décide de quitter Paris. Elle abandonne son mari, ses enfants, sa famille, son milieu. Marie annonce à son époux qu'elle se sépare de lui au terme de 8 années de mariage. Quand même pas n'importe qui cette Marie d'Agoult. La voilà qui s'enfuit donc avec Franz en juin 1835. Ils s'en vont à Genève. Leur cavale amoureuse va durer près de 5 ans. Ils auront 3 enfants, dont la célèbre Cosima, qui deviendra l'épouse de Richard Wagner. Et puis Liszt part pour Vienne. C'est le début début de sa glande période à travers toute l'Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, au Portugal, partout la gloire, jusqu'à la Turquie, jusqu'à la Russie, où va s'achever dans des salles comprenant 3000 personnes, parfois plus de 3000 personnes, où va s'achever cette incroyable tournée. Franz en tout aura visité dans sa carrière une vingtaine de grands pays européens. Les concerts se succèdent avec une régularité incroyable et toujours c'est l'émeute. On n'imagine pas ce qu'a pu être le culte de Liszt qui frôle l'hystérie. On va en parler dans un instant avec Thierry Geffrotin. Jamais un artiste n'obtiendra un tel succès populaire. On peut dire qu'il abolit les frontières, notamment les frontières de classe aussi, entre noblesse, bourgeoisie, même le peuple adulte. Franz Liszt, ne nous y trompons pas. Ce qui est en train de naître à cette époque avec Liszt, c'est le concert moderne. C'est le concert tel que nous le connaissons, nous, aujourd'hui.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec à l'honneur sur Europe 1, l'un des hommes les plus adulés du 19e siècle, Franz Liszt.
Dont on célèbre donc après-demain le 200e anniversaire de la naissance. Alors, il ne faut pas se leurrer, avec leur grand caractère, Marie Dagout et Franz Liszt ont tout de même fini par se haïr. Franz multiplie les aventures et Marie, de son côté, se lamente, puis s'aigrit. Elle traite Franz de don Juan parvenu. En bout de course, ce sont les amours tapageuses de Liszt avec la célèbre courtisane Lola Montes qui encourage Marie Dagout à rompre définitivement. Ça fait beaucoup de bruit, tout ça. Il n'y avait pas de journaux People à l'époque, mais sinon on peut penser qu'il s'en serait donné à cœur joie.
Oui.
Cependant, Liszt, lui, n'a jamais cessé de songer à son premier amour de jeunesse, à cet élève de jadis, à la petite Caroline de Saint-Cricq devenue Caroline d'Artigno. À l'automne 1844, volontairement, il ajoute une destination à sa tournée à travers la France. Il ajoute Pau, avec l'espoir à peine caché de revoir celle qu'il a aimée et qu'il aime encore. On est donc 16 ans après. Lorsqu'il entre dans la salle du concert à Pau, Franz reconnaît tout de suite Caroline assise au deuxième rang. Elle est vêtue d'une robe grise, elle a toujours le même visage, ce petit visage de petite fille avec ses yeux mauves qui paraissent plus grands qu'autrefois, sans doute plus tristes aussi, beaucoup plus profonds. Il joue l'ouverture de Guillaume Tell et l'invitation à la valse, spécialement choisie en souvenir du miracle de 1830. Et puis cette étude de Chopin, cette fantaisie sur Robert le Diable, ce galop chromatique, c'est à Caroline d'Artigno, bien entendu, qu'il les dédie. Du concert, Franz rend visite à Caroline, chez elle. On peut dire que ces 16 années les ont changés, forcément, l'un et l'autre. Ils ont gagné en maturité, alors ils se regardent. Ils parlent très peu, ils ont la gorge serrée. Caroline lui révèle tout ce qu'il avait deviné, sa vie de résignation, son long martyre, qu'elle a accepté en bonne chrétienne, en bonne épouse. Elle lui raconte comment elle a suivi de loin tous ses triomphes. Et comment elle n'a jamais cessé de l'aimer. « Ne vous lassez jamais de mon souvenir », lui demande-t-elle. Elle lui demande aussi la permission de le regarder toujours comme la seule étoile lumineuse de sa vie et lui répète sa quotidienne prière « Mon Dieu, récompensez abondamment ma constante soumission à vos volontés ». Le soir tombe, Franz et Caroline marchent doucement côte à côte dans le parc. Entre eux, les moments de silence sont beaucoup plus nombreux que les paroles échangées. Et puis le lendemain, le 11 octobre, Liszt donne un second concert à Pau et au cours de ce concert, il va se livrer à une de ses fantaisies qui désormais pour lui sont devenues une habitude, à une de ses improvisations. Il faut savoir que la veille, sur le piano Pleyel de Caroline, il a trouvé un recueil de chansons populaires du Béarn. Il s'assied devant le piano ce jour-là, il fredonne le poème du pasteur malheureux, là-haut sur la montagne, un pasteur malheureux assis au pied d'un chêne, baigné de pleurs, songeait à l'inconstance de ses amours. Eh bien, cet air est resté dans son cœur. Et le soir du concert, devant une salle transportée qui va l'acclamer, Franz Liszt communique à ses touches toutes la nostalgie d'un amour inassouvi. Et puis, le 17 octobre, une riche Irlandaise de la région, Lady Fitzgerald, le prie de venir donner dans ses salons un concert de charité. Alors, Liszt accepte. C'est une nouvelle soirée d'exaltation, mais il n'est plus possible pour le grand concertiste de s'attarder davantage du côté des Pyrénées. Ces quelques jours ont été pour lui une épreuve mélancolique et tendre. Une dernière fois, il vient saluer Caroline. Il baise religieusement cette main qu'on lui tend. Caroline détourne la tête et puis le voyageur reprend sa route.
Extrait sur Europe 1 de l'hymne de l'enfant à son réveil.
Alors les années passent encore. En 1847, Liszt rencontre à Kiev une princesse polonaise très séduisante. Par une curieuse coïncidence, elle aussi s'appelle Caroline. Caroline de Sayn-Wittgenstein. Et c'est avec elle qu'il va partager le reste de sa vie. Liszt met un terme à sa carrière de virtuose. Il se retire à Weimar en Allemagne. C'est le début d'une autre carrière, celle du chef d'orchestre et surtout bien sûr du compositeur. Mais tout ça n'exclut pas le culte du passé. Franz raconte à sa princesse comment ses amours ont tristement commencé. Il lui confie cette histoire d'amour malheureuse avec Caroline de Saint-Cricq. Et il lui dit « Son père nous a fait à l'un et à l'autre beaucoup de mal, mais avec les plus raisonnables intentions du monde. J'espère qu'un jour nous rapprochera de Caroline. C'est la seule personne que je désire que vous connaissiez. Vous lui ferez du bien et elle vous sera douce. » Le 14 septembre 1860, à Weimar, Franz Liszt rédige son testament. Il déborde de reconnaissance envers sa divine princesse, qu'il aurait si ardemment désiré appeler du doux nom d'épouse, ce à quoi la malignité humaine, écrit-il, et les plus déplorables chicanes se sont opposées avec obstination. Mais justement, parce que toutes ses joies étaient en elle, et que toutes ses souffrances allaient toujours vers elle pour chercher leur apaisement, ce sont ses propres mots, Franz l'a pris de remettre, après sa mort, à Madame Caroline d'Artigno, née comtesse de Saint-Cricq, à Pau, un de ses talismans montés en bague. Ce vœu ne se réalisera pas, car le 16 avril 1872, c'est Caroline d'Artigno qui s'en va la première. Pas un jour, elle n'avait omis cette prière dont, au cours de l'automne 44, elle avait révélé les termes émouvants à celui dont elle n'avait cessé d'être l'amante mystique. À celle qui lui avait si parfaitement succédé dans son cœur, Franz Liszt s'écrivait « Comment pourrais-je différer de me recueillir et de prier en apprenant la mort de Caroline ? Elle était une des plus pures manifestations de la bénédiction de Dieu sur terre. Ses longues souffrances, endurées avec tant de chrétienne douceur et de résignation, l'ont mûri pour le ciel. »
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Un extrait de la Campanella sur Europe 1, puisque nous parlons de Franz Liszt avec l'ami Thierry Geffrotin qui nous a rejoint, qui est chef du service culture à Europe 1.
Et en écoutant cette sublime et lumineuse interprétation de Georges Xifra, Thierry disait, il a trois mains. Là. C'est vrai qu'il
au moins trois.
au moins trois et 12 doigts à chaque.
Il y a une caricature d'ailleurs de Liszt où on le voit avec quatre mains. On dit non, il n'avait pas quatre mains.
Oui, mais c'est assez étonnant, cette virtuosité. On va en parler. J'ai sous les yeux, Thierry Geffrotin, deux portraits de Franz Liszt qui ont plus de 40 ans d'écart. Donc on a le très jeune et très beau romantique, lorsqu'il était justement le professeur de la petite Caroline. Et puis, on a ce vieux monsieur qui a toujours le même regard. Les cheveux sont toujours aussi longs, mais ils sont devenus blancs. Il porte la soutane aussi, parce que ça, j'ai pas eu le temps, moi, d'aller jusque-là. Mais il finit sa vie très religieusement, Liszt.
Oui, est-ce le même homme? Quand on regarde ce portrait et cette photo, puisqu'on a des photos de Liszt prises par Nadar à la fin de sa vie, oui, c'est le même homme. Et ceux qui s'interrogent, c'est bizarre, c'est quand même ce destin de cet homme fougueux, don Juan, qui séduit tant de femmes et qui finit abbé. Mais c'est vraiment le même homme. Et c'est, vous l'avez dit, Franck, au début de votre récit, il a eu une hésitation entre la vocation à la prêtrise et la musique. Et c'est un
il
profond croyant.
Il a constamment balancé entre les deux.
Oui, oui, c'est un grand croyant. Donc il n'y a pas une espèce de retournement de situation. C'est vraiment le même homme, et physiquement aussi, on le retrouve, évidemment.
On a l'impression, à travers le destin d'un homme comme Liszt, et il n'est pas le seul, mais ils sont très rares, je crois, dans l'histoire, on a l'impression d'un accomplissement dans tous les domaines.
Ah oui, alors je me disais...
Là, on ne peut pas dire que c'est une carrière interrompue. Hein.
Comment présenter... Alors, ce n'est pas un sommet, Liszt, c'est une chaîne, un massif, ce sont les Alpes, voilà, il y a plusieurs sommets. Il est à la fois, alors on l'a dit évidemment, prodige, virtuose, pianiste, comme on ne l'imagine pas, compositeur, chef d'orchestre, écrivain, parce que vous avez cité Liszt dans le texte, c'est de la belle littérature, hein. il écrit en français. Et
c'est
quel
un philanthrope
français
aussi, hein.
Philanthrope,
grand humaniste.
Voilà, grand humaniste qui donne des concerts au profit des victimes des inondations à Budapest, pour les pauvres italiens, enfin il était tout le
avec
temps...
Grand respect pour ses pairs, oui. Dans toutes les orthographes du terme, si je puis dire, puisque on le voit partir pour Vienne, donner une série de concerts en faveur de la construction à Bonn d'un monument à la mémoire de Beethoven, par exemple.
Voilà, entre autres, ouais. Parce qu'il a tellement fait. Il était toujours attentif aux autres, donnant des cours gratuitement. Et vous imaginez ce que c'était que de recevoir l'enseignement de Franz Liszt. C'était un peu comme Chopin qui lui se faisait payer. Hein,
mais
bien
alors on
payé.
A l'impression, Dieu sait que j'adore Chopin par-dessus tout, mais on a l'impression que Chopin est toujours un peu évanescent, un peu compliqué, ça finit jamais, il est malade, souffreteux, il aboutit dans pas grand-chose, sauf, je parle pas de ses œuvres, hein, évidemment. Alors que chez Liszt, c'est l'inverse. Ce sont de grands amours, c'est une grande famille, c'est une vocation religieuse menée à terme, ce sont des générations d'élèves, enfin, mais quelle fructification chez ce bonhomme.
Et puis, on est incapable de dire finalement de quelle nationalité il est. Bien sûr, alors on dira, il est hongrois, mais il est autant français,
oui, tout, oui.
Il est italien, il est allemand, il est européen en fait.
Est-ce qu'on peut pas dire qu'il est avant tout parisien?
Ah oui, il disait qu'il était un amour chauvin pour Paris. Il adorait Paris, qui lui rendait bien.
Qui lui rendait bien, oui, Paris, oui, était, oui. Mais on peut dire que c'est une folie pour Liszt. Hein. Dès qu'il donne un concert, ce sont des files d'attente incroyables, les gens se battent. C'est comme aujourd'hui pour certaines très grandes stars du rock planétaire. C'est-à-dire qu'on vend les places aux enchères. Enfin, et puis alors, ce sont des acclamations dès qu'il finit un morceau.
Oui, il y a des récits, des témoignages. On se dit c'est pas possible. Là, on a affaire à des groupies qui en rajoutent dans les superlatifs. Et non, c'était bien ça. Alors, le récital, puisque on va dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit, les pianistes qui se produisent, c'est Liszt qui amène ça au milieu du 19e siècle. Et Marie Dagout a ce très, très joli mot, enfin cette expression, et dit qu'il donne des monologues pianistiques. Et c'est ça, il parle, il nous parle, et tout le monde se tait pour l'écouter, évidemment.
Le piano parle sous ses doigts. C'est ça,
oui,
c'est
alors
ça.
Le piano... Alors...
Et puis l'orchestre bientôt.
Et l'orchestre, oui, parce qu'on dit toujours, ah oui, Liszt c'est le piano, mais il y a aussi une œuvre orchestrale assez incroyable.
Thierry Geffrotin, si l'on devait définir en quelques mots, évidemment, ce que Liszt a apporté à la musique. En quoi a-t-il repoussé les limites, si je puis dire?
Alors, déjà, il repousse, on va commencer par ça, parce que c'est peut-être le moins important. Il repousse les limites techniques.
Oui.
Je dis que c'est le moins important, parce que pour un pianiste, c'est important, mais pour nous qui écoutons cette musique, on voilà. C'est
on comme... dit que pour certains morceaux, il est possible de se fouler le poignet en jouant.
Ah oui, oui, on peut se faire mal. Schumann s'est fait très mal, lui, en voulant justement, endurcir ses doigts et les fortifier, mais jouer du Liszt, c'est une épreuve, c'est physique, c'est très physique. Alors, il y a ça, voilà, la apporté ça. Il a apporté cette manière de faire sonner le piano. Alors, il faut savoir qu'à la fois, c'est sa manière de ressentir l'instrument, mais je vous disais qu'il a créé le récital, c'est-à-dire qu'on jouait dans des salles de plus en plus grandes où le piano, il faut qu'il prenne sa place, il faut qu'on l'entende. Et il a créé aussi des formes, des audaces harmoniques. En fait, je pense que... on n'a pas encore tout à fait mesuré, 200 ans après sa naissance, tout ce qu'il a pu nous apporter. Je crois que Liszt est encore à découvrir.
Et pourtant, on a l'impression qu'à côté de certains nombres de stars de la musique classique, j'ai cité Beethoven, évidemment, qui est le grand maître suprême, mais aussi Mozart et Chopin, etc., on a l'impression que Liszt fait un peu aujourd'hui office de parent pauvre.
Parce que c'est encore de la musique de l'avenir, à l'époque de son vivant, et il représente un courant révolutionnaire. Il va de l'avant. Brahms, qui a rendu visite à Liszt à Weimar, est beaucoup plus classique dans son écriture que ce compositeur qui nous dépasse de la tête et des épaules et qui a un sens artistique qui est énorme, grandiose, grandiloquent même.
Vous avez employé le mot grandiose, moi ça me va très bien.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un extrait du Miserere sur Europe 1, interprété par Brigitte Angerer, Franck.
Brigitte Angerer qui est avec nous au téléphone. Bonjour Brigitte Angerer.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
Beaucoup d'être des nôtres. Vous êtes évidemment l'une des très grandes interprètes de Liszt. Pourquoi cette prédilection? On vous voit souvent jouer du Liszt.
Parce que j'aime cette musique généreuse et pleine d'imagination et très moderne à mon avis, parce que sur le plan harmonique et puis sur le plan aussi de l'imagination. Je pense souvent que si Liszt avait vécu à notre époque, il aurait été plutôt un cinématographe. Voilà. Parce que sa musique raconte plein d'histoires, plein de sentiments, mais plein d'histoires, plein d'images, plein de couleurs. Voilà. Et c'est un homme qui exprime toujours des sentiments extrêmement généreux et extrêmement visionnaire.
C'est un homme de la fantasia, comme diraient les Italiens. Est-ce que pour vous, il est d'abord un pianiste, parce qu'après tout, c'est aussi un compositeur, un grand chef d'orchestre, un homme qui a donné dans tous les domaines de la musique?
Pour moi, c'est un grand compositeur. Et évidemment, il a pu écrire pour le piano aussi bien, parce qu'il était aussi un très grand pianiste et qu'il avait des mains extraordinaires et une technique extraordinaire. Il a fait avancer la technique du piano par ses œuvres, par les œuvres qu'il a réussi à nous transmettre. Malheureusement, je ne l'ai pas entendu comme interprète, mais tout le monde raconte des merveilles. On dit que les femmes tombaient dans les pommes, qu'il fallait leur donner des sels pour se réveiller après les concerts de Liszt. C'est vrai que c'était un petit peu une espèce de rockstar à l'époque. Partout où il allait, il était adulé, fêté, honoré.
Thierry Geffrotin, qui est à nos côtés et qui vous salue.
Bonjour Brigitte.
Parler il y a une seconde de la technicité comme vous. Hein, il y a quand même une difficulté à jouer certaines pièces de Liszt.
Oui, il va très loin dans l'instrument, mais aussi d'une manière tellement intelligente, tellement pianistique. Ça tombe sous les doigts et c'est toujours extrêmement agréable et confortable quelque part, même si c'est difficile.
Oui, ça fait sans doute un peu peur parfois, lorsqu'on voit les partitions, hein, tout simplement, le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont très noircies.
Oui, mais il a pu faire ça parce qu'il était lui-même un grand pianiste, donc il a une compréhension de l'instrument qui est très très intelligente et très réalisable en fait.
Il était en avance sur son temps, selon vous ?
Absolument. Absolument, en avance sur son temps, et il a ouvert, pour moi, il a donné la clé à plein de compositeurs qui l'ont suivi, que ce soit Wagner, que ce soit Ravel, que ce soit son écriture et ses harmonies, surtout les dernières œuvres, sont très, très en avance, oui.
Merci beaucoup pour ce témoignage que vous venez de nous donner au téléphone. Je signale que Madame Angerer sera à Oviedo, en Espagne, pour un concert avec le Rundfunkorchester de Munich. Ça, c'est donc le 24 novembre. Et puis, du 2 au 11 décembre, Madame Angerer sera membre du jury du concours Beethoven de Bonn. Il y a un certain nombre de concerts qui sont prévus en France. France, au Mont d'Or, à Perpignan, à Nantes, à Grenoble, etc. Je ne veux pas vous donner toutes les dates, mais elles seront sur notre site internet. Thierry Geffrotin, ce qu'on sent bien lorsqu'on écoute Brigitte Anguerer, c'est que derrière la difficulté technique, il y a toute la puissance de l'âme du compositeur.
Voilà, il y a l'amour de la musique, l'amour de l'humain aussi. Et puisque on parlait de Beethoven, c'est un grand transcripteur, Liszt, c'est-à-dire qu'il a propagé la musique des autres aussi. Il a réduit, disons réduit, pour piano, pour deux mains, les symphonies de Beethoven. Et il faut écouter ces transcriptions de cette musique d'orchestre qui est quand même phénoménale sous les doigts de Liszt. On peut les jouer aussi soi-même hein, en travaillant beaucoup. Mais enfin, c'est Liszt qui a assuré la transcription. C'est assez incroyable.
Il est le beau-père de Wagner, au passage.
Oui. Alors, il y a eu quelques fâcheries. Hein. Ils se sont réconciliés, mais ils ont été un peu fâchés. Il a aussi beaucoup porté la musique de Wagner qu'il a dirigée. Oui, c'est assez, on se dit, c'est quand même... le monde de la musique, c'est magique et mystérieux. Voilà, Cosima qui épouse...
Cosima, donc fille de Liszt, qui épouse Wagner.
Voilà, après...
Beaucoup plus âgée qu'elle.
Oui, qui a divorcé pour épouser Wagner. Oui, voilà. Là, on tombe dans les histoires de famille et on quitte un peu la musique.
Mais enfin, avec Liszt, elles sont jamais très loin, toutes
la musique n'est jamais très loin. Les femmes non plus.
D'une façon générale. C'est un roman incroyable que la vie
de Liszt. Oui, il y a tellement de légendes autour de ce compositeur qu'on ne sait plus ce qui est vrai. Par exemple, on a dit qu'il avait rencontré Beethoven. Ça, c'est absolument faux. On en est à peu près sûr aujourd'hui. Mm-hmm. Mais c'est presque anecdotique parce qu'il en a tellement fait que... Allez, on va considérer que c'est pas un gros mensonge.
J'ai sous les yeux un petit bréviaire bien utile qui s'appelle Les 100 mots de la musique classique dans la collection Que sais-je aux Presses universitaires de France, un ouvrage signé Thierry Geffrotin et à l'entrée, je sais pas comment on peut appeler ça,
mais alors
à l'occurrence
les
piano,
disent occurrence.
À l'occurrence piano, je trouve une longue citation de Franz Liszt. Je ne résiste pas au plaisir de vous la lire. Je regarde, disait Franz Liszt, l'importance, il parle du piano, hein, l'importance du piano comme très grande. Il tient à mes yeux le premier rang dans la hiérarchie des instruments. Il est le plus généralement cultivé, le plus populaire de tous. Cette importance et cette popularité, il les doit en partie à la puissance harmonique qu'il possède exclusivement. Et par suite de cette puissance, à la faculté de résumer et de concentrer en lui l'art tout entier. Dans l'espace de ces 7 octaves, il embrasse l'étendue d'un orchestre et les 10 doigts d'un seul homme. Évidemment, quand c'est Liszt, l'homme, ça aide un peu. Les 10 doigts d'un seul homme suffisent à rendre les harmonies produites par le concours de plus de 100 instruments concertants. Quelle déclaration
d'amour.
Comme
il en parle bien. Oui. Oui, comme il en parle bien. C'est un texte qui est extrait de Lettres d'un bachelier S-musique. Il faut lire absolument. On écoute la musique de Franz Liszt. Il faut aussi lire ses écrits.
Belle âme que celle de Franz Liszt et qui termine le plus sereinement du monde, disons-le.
Oui, qui meurt à 75 ans à Bayreuth. C'est presque un...
Ça ne s'invente
c'est
pas.
C'est un symbole, voilà. C'est une fin heureuse, peut-être pas. Il était très entouré. Il avait beaucoup d'élèves qui venaient le voir. Je ne pense pas que la fin fût si heureuse. Mais voilà, c'est une fin comme on peut souhaiter à beaucoup de compositeurs.
Les 100 mots de la musique classique de Thierry Geffrotin, donc c'est au PUF. Merci surtout Thierry, merci pour ce
Franck,
livre, mais merci pour tout ce que vous nous dites. Et merci pour la façon dont vous tenez, si je puis dire, la culture dans cette maison, car je crois que c'est tout simplement la bonne façon. Un très grand merci aussi à Lorena Martin qui m'a aidé largement à préparer le
fidèle,
récit de cette émission d'aujourd'hui.
De
et, oui, et avec laquelle d'ailleurs je pars dès demain pour Mulhouse.
Écoutez, je
demain,
vous accompagne aussi. Eh ben place voilà, de la Réunion, nous sommes trop
on va faire, j'allais dire un grand quart, mais non, puisque nous partons par
en
le TGV.
Train, oui.
Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour Thierry.
Bonjour Elena.
Geffrotin, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'hygiène bucco-dentaire. Dit comme ça, c'est pas chouette. Mais si je vous dis.
Ça calme un peu.
Comment conserver un sourire pour la vie en écoutant Franck Ferrand et Thierry Geffrotin, par exemple, mais aussi avec quelques petits gestes au quotidien. D'ailleurs, si on voyait Thierry Geffrotin avec son joli pull vert déjà, on sourirait tous.
Ah oui, ça c'est le ver de l'espérance. Merci beaucoup Elena. Et donc à demain à Mulhouse en Alsace. Merci beaucoup. À demain Julia.
À demain Franck.
Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2.
Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation.
Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique.
Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire.
Parole de l'ombre 2.
En librairie pour 34,80€ seulement.